identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaï Binam.
Baba Zangante.
Bonjour Monsieur Domingo Simoé Pereira. Je vous remercie de venir vous exprimer au micro de Radio Sputnik Afrique, à l'heure de l'émission Identité africaine. Je rappelle à nos auditeurs que, citoyen de la Guinée-Bissau, vous avez travaillé dans le domaine du génie civil et des sciences politiques. De 2008 à 2012, vous avez été secrétaire et exécutif du Commonwealth des pays lusophones. Le 9 février 2014, vous avez été élu chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. On dit PAIGC. J'aimerais beaucoup qu'on en parle tout à l'heure. Vous allez nous raconter qu'est-ce que c'est donc que ce grand parti africain. Et bien sûr, vous avez assuré de 2014 à 2015 la fonction du Premier ministre de la Guinée-Bissau. Permettez-moi de vous poser une première question qui me tient tout particulièrement à cœur. Le 7 mai aura lieu la cérémonie d'investiture du président russe Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a été élu avec plus de 87% de voix. Il s'agit d'un plébiscite sans précédent.
La récente campagne électorale a été tendue et extrêmement exigeante, parce qu'il s'agissait essentiellement de choisir la voie que suivrait la Russie, de choisir notre avenir et celui de nos enfants. Et la majorité absolue des électeurs qui se sont rendus aux urnes comprenait l'importance de cet événement. Une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont participé au scrutin, quel que soit le candidat auquel ils ont accordé leur voix. L'essentiel est que vous ayez prouvé que vous respectez votre devoir civique, que vous valorisez la liberté de choix et votre vote, et je le répète, chacun de vos votes a été d'une grande importance. Chers amis, je vous remercie de votre soutien. Pour moi, il est plus important qu'une victoire formelle aux élections. C'est un soutien à l'orientation politique et économique de notre pays, à nos résultats communs qui, bien sûr, devraient être plus importants, mais qui, déjà aujourd'hui, rendent la Russie encore plus forte et plus indépendante. Je vous remercie tous de votre confiance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la justifier. Je suis conscient que ce niveau de confiance accroît la responsabilité à l'égard de la Russie et du bien-être de notre peuple, et qu'il exige un engagement et une efficacité encore plus grands de ma part et de la part de toute notre équipe. Les élections ont montré que la Russie d'aujourd'hui est une grande famille amie. Nous marchons ensemble sur la voie historique que nous avons choisie. Nous avons confiance en nous-mêmes, en notre force et en notre avenir.
Pourriez-vous nous dire ce que cela vous inspire? Que signifie pour l'homme politique que vous êtes cette expression de solidarité du peuple russe?
Monsieur Maxime Mardokhaev, permettez que je vous exprime mon sentiment de gratitude et de pouvoir m'exprimer en direction de tout le peuple de Moscou et pourquoi pas de la Russie qui nous accompagne.
Et toute l'Afrique aussi, je vous préviens.
De l'Afrique aussi, ok. Pour féliciter le peuple russe qui vient de s'exprimer de forme très claire sur son choix pour le leadership de son pays. Donc, nous tous, on a une idée de ce que la Russie représente dans le monde. Donc, pour moi, ça renforce la responsabilité de M. Poutine apporter pas seulement la paix et la stabilité en Russie, mais dans le monde. Donc, beaucoup de nous croient qu'il représente l'équilibre de quoi le monde a besoin, même si on regrette, et là je dois dire que j'ai séjourné à l'ancienne Union soviétique entre 82 et 88, on ne pouvait jamais imaginer entre les peuples russes et ukrainiens, cela puisse arriver, mais on croit que cette échéance électorale va ouvrir une nouvelle page qui doit permettre que, dans la table de négociation et à partir du dialogue, ils soient capables de créer les ponts nécessaires pour l'entente.
Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant qu'homme politique qu'un président a été élu avec un tel plébiscite? Ça veut dire quoi? Les Russes se seraient réunis derrière une idée, plus que peut-être même derrière un président? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dit oui au président Poutine?
Exactement, exactement. Disons que chaque fois que, de forme libre, la population d'un pays s'exprime de forme tellement claire, ça veut dire d'ailleurs que ils reconnaissent la fierté du propos que le président amène, mais qui dépose aussi dans leurs mains l'espoir d'une vie tranquille et paisée. Donc c'est une question il est renforcé dans les pouvoirs qui la Constitution le donne pour être le légitime représentant du peuple russe. Mais je vais au-delà en disant que la Russie n'est pas justement importante juste pour le peuple russe, c'est pour le monde entier. Et donc on regarde avec espoir.
Vous voulez dire que le président Poutine et c'est en fait le fait que la Russie ait montré au monde entier qu'elle souhaite et qu'elle est d'accord avec la politique de Vladimir Poutine, cela montre au monde entier que la Russie est derrière son président et que le président a les mains libres pour agir, n'est-ce pas?
Pas question à ce regard. Pas question. Je pense que s'il y avait des doutes, la votation qui vient d'être faite représente cela et doit avoir la reconnaissance du reste du monde.
Avant de continuer, je souhaite rappeler que la Russie et la Guinée-Bissau ont des relations diplomatiques et d'échanges dans de très nombreux domaines, et ça depuis plus de 50 ans. Le président actuel de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, s'est rendu en visite officielle à Saint-Pétersbourg, où il a rencontré en juillet 2023, lors du sommet russo-africain, le président Vladimir Poutine. Qu'attend la Guinée-Bissau de ces derniers résultats des élections présidentielles, surtout compte tenu de la voie du rapprochement entre l'Afrique tracée par les autorités russes?
À mon avis, c'est très important le rôle que la Russie peut jouer dans le contexte mondial. Rappelons-nous tous que c'était la Russie, un player important, qui a construit la coalition nécessaire pour battre le nazisme en 45, le multilatéralisme qui est déclenché à partir de là et qui a construit les Nations Unies.
Absolument.
Donc, nous tous, on doit être préoccupés avec la dérive qu'on a vu sur le multilatéralisme. Et donc, la coopération internationale reste une voie importante. Et donc, on croit que le respect de la Russie, l'acceptation de la légitimité que le président a octroyée après ces élections, encore une fois, doit ouvrir une opportunité pour que, autour d'une table, toutes ces potences internationales puissent jouer un rôle. Pour dire que je fais appel à ce qui était la position des grands leaders africains comme Abilkar Cabral, comme Bembela, comme Kwame Nkrumah, qui parlaient de non-alignement. Donc, non-alignement dans le sens de jouer un rôle de faire le pont, appeler à la table de négociation, à la discussion, au dialogue, tous les parties prenantes, pour que la sécurité des uns et des autres puisse être assurée et que le développement puisse avoir lieu. La Guinée-Bissau a beaucoup profité de la coopération avec la Russie et l'Union soviétique à l'époque. Et donc, on regarde avec espoir cette réélection du président de la Russie et que cela nous offre une opportunité à toute l'Afrique, mais particulièrement à la Guinée-Bissau, de rétablir ces accords de coopération et lancer le programme de développement. Je crois vraiment que la Russie peut être un partenaire important pour la Guinée-Bissau.
Justement, pour rappeler que du temps de l'URSS, il y a eu beaucoup de coopération. Il y a eu un complexe minier de bauxite qui a été créé, carrément.
Oui.
Les chemins de fer ont été construits, une université dans la capitale, le stade central, enfin, c'est beaucoup de choses. Des travaux de topographie ont été réalisés sur une immense superficie de 45 000 mètres carrés, tout de même, c'est beaucoup. Et il y a eu, ce qui était très important, c'était les relations russo-guinéennes. Aujourd'hui, sont très amicales et la politique, il y a un maintien de la politique.
À part tout ça, Monsieur Mordecai, permettez de vous rappeler que jusqu'aux années 90, certainement plus de 70% de tous les cadres bissau-guinéens ont été formés dans les anciens territoires de l'Union soviétique. Donc notre reconnaissance est pleine à ce que la Russie et l'Union soviétique représentent pour nous.
Vous, d'ailleurs, je crois que vous avez écrit un livre où vous parlez un peu d'une période de votre vie. Donc, c'était les années 80. Vous avez étudié à Odessa. Vous vous souvenez? Quel souvenir gardez-vous de cette époque-là en Union soviétique?
Oh, les meilleures années de ma vie. Ça, je peux vous assurer. Vous savez, on dit les années 80. En réalité, c'est quand j'ai tourné 18 ans, jusqu'au moment que j'ai quitté, j'avais 24 ans. Donc, je vais vous signaler trois éléments fondamentaux dans ma vie. Le premier, c'est que j'ai fait deux ou trois expériences de stroyatriate.
Stroyatriate.
J'étais au Kazakhstan.
Expliquez ça à nos amis africains. Qu'est-ce que c'est le stroyatriate alors?
Excellent. vous savez, moi, j'admirais toujours la discipline militaire, mais j'avais pas envie d'être militaire. Donc, j'ai trouvé dans les brigades de jeunesse.
C'est ça le stroyatriate,
c'est les brigades de jeunesse que dans les périodes de vacances, on part dans des endroits incroyables pour construire, pour il y a des gens qui participent dans l'agriculture. Moi, j'ai participé toujours dans la construction.
Pour rappel,
Stroyotriadi, les équipes de construction étudiantes, c'était un programme de l'Union de la jeunesse communiste en URSS, destiné aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur, secondaire et primaire. Dans ce cadre, des groupes temporaires étaient constitués pour travailler volontairement pendant leur temps libre, généralement pendant les vacances d'été. À l'époque, les équipes de construction avaient pour objectif non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'éduquer les étudiants à l'esprit du collectivisme créatif, à une attitude respectueuse envers le travail, à des qualités morales élevées et au patriotisme. Les équipes de construction avaient des uniformes et des symboles spéciaux. Ils ont participé à la mise en place de la ligne ferroviaire Baïkal-Amour, de la centrale hydroélectrique de Sayano-Chouchenskaya et ont exploité les gisements de gaz de Sibérie. De nombreuses personnalités russes sont passées par cette école. Le président Vladimir Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l'ancien président et premier ministre Dmitri Medvedev, le président de la Douma d'État Vyacheslav Volodin et d'autres encore.
Donc, la première fois, je suis allé à un village qui s'appelle Rybkina, en Moldavie. Et on était 29 entre 19 hommes et 10 jeunes filles. Et pendant deux mois, on a construit 10 maisons de la fondation à la clé.
Magnifique.
L'année suivante, je suis allé comment il s'appelle, Rybkina.
Encore, oui, Rybkina, oui.
Non, le premier, c'était Semihatki.
D'accord.
Yeah. Le premier, c'était Semihatki. Le deuxième, c'était à Rybkina, en Kazakhstan.
D'accord.
Tout près de Almata, où on a construit une station d'eau, de fourniture d'eau potable.
D'accord. Mais il y avait qui? C'était que les Africains ou c'était des Russes? Vous dites qu'il y avait...
Ah non, c'était plutôt des Russes. C'était mélangé. Il y avait à peu près 4 ou 5 Africaines.
D'accord.
Oui. Donc,
et vous parlez ça, quelle langue? Quelle langue vous parliez alors entre vous?
On parlait en russe. Tout le monde parlait en russe.
Vous parlez pas russe?
Il y a le russe qui connaît, non?
C'est formidable. Alors, donc ça vous a en fait appris quoi? L'amitié, la solidarité. J'imagine que vous n'êtes pas devenu constructeur pour autant, ingénieur, n'est-ce pas? Même si vous en avez fait des études, vous êtes devenu un homme politique. Et vous faites.
Non, ça m'a appris tout. Ça m'a appris à être un homme. Ça m'a pris l'esprit consommant, parce que je faisais partie de la jeunesse de notre parti, le PAIGC, et avec la coopération qui existait, on était acceptés comme membres du consommant.
Consommant, c'est jeunesse communiste
donc,
à l'époque, oui.
La jeunesse communiste, oui, à l'époque. Je peux vous dire que je participais dans tous les travaux volontaires qui étaient réservés aux Russes. Que ça soit le nettoyage de la neige, que ça soit la construction des digues, j'étais présent. Parce que j'ai trouvé un peuple qui était capable de transformer sa réalité. Le peuple russe croyait à être indépendant, autonome, et de faire de toutes ses faiblesses la force pour réussir et pour bâtir le développement. Et ça m'a appris la vie à être un homme. Le troisième élément que je veux ajouter pour vous démontrer mon attachement aux périodes que j'ai vécues à l'Union soviétique, c'est que ma fille est née à Odessa. Je l'avais promis de la prendre de retour pour faire la connaissance du site. Bon, c'est pourquoi on prie tout que la guerre s'arrête et que la paix ne puisse permettre de l'avoir.
J'aimerais savoir, on va revenir à cette question, supposons qu'en 2025, donc, est-ce que vous allez vous présenter d'abord? Est-ce que vous vous présentez en présidentiel? Est-ce qu'on peut faire une annonce là?
Comme je venais de vous dire, en tant que président du PAIGC, je reste un atout que le PAIGC peut utiliser. Normalement, pour nous, c'est notre comité central qui décide. Mais je peux vous assurer que, voir tout le parcours qu'on a fait, il serait très grave si le PAIGC décide de ne pas me présenter comme son candidat.
Mais quelles pourraient être les raisons? Vous les connaissez?
À cette distance, je ne peux pas voir. Mais comme on reste un parti démocratique, que les décisions sont prises de forme démocratique au sein du parti, il faut respecter le choix qui est fait au moment propice.
Lors des dernières élections, la nouvelle Russie, ce qu'on appelle les nouvelles régions de la Russie, c'est-à-dire la région de Donetsk et de Lugansk, a voté massivement. À 95%, le président Poutine a été élu dans ces régions. À votre avis, cela contribuera-t-il à modifier la position des pays qui ne reconnaissent toujours pas les nouvelles régions comme faisant partie de la Russie? Alors, supposons que si, aux prochaines élections, vous êtes élu en tant que président de la Guinée-Bissau, êtes-vous prêt à reconnaître ces régions comme faisant partie de la Russie?
Je ne veux pas, comme vous avez respecté la non-ingérence dans les affaires de la Guinée, moi aussi, je respecte la non-ingérence dans l'affaire de la Russie et de l'Ukraine. Mais je connais à peu près l'histoire et je préfère dire que une fois les armes en silence, les hommes doivent parler, ils doivent dialoguer et par le multilatéralisme, ils doivent trouver la réponse partout pour toutes ces questions. Mais je répète, c'est malheureux quand on voit le peuple russe et le peuple ukrainien en train de se battre et de se tuer, entretuer. Ça vraiment fait mal au cœur et je le regrette tous les jours.
J'aimerais savoir quelle est votre appréciation concernant l'alliance des États du Sahel, les transitions au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Vous pourriez nous en parler un peu?
Oui, certainement. Pour vous dire que la situation politique dans ces territoires, Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso, j'ai toujours dit que c'est une invitation à revisiter la façon comme les organisations régionales, dans le cas échéant, la CEDEAO, mène sa politique.
Justement,
Allez-y. Oui. Oui.
Non, parce que justement, je voulais savoir votre réaction par rapport au fait que les trois pays, Mali, le Burkina et le Niger, lors du sommet de la CEDEAO, ont décidé de quitter cette organisation tout de même.
Oui, moi je prends ça comme une menace pour lancer l'alerte sur la détermination de ce peuple d'affronter les défis qui sont en face d'eux. Mais je pense que ça, c'est un échec. Parce que la CEDEAO a été construite pour renforcer les institutions démocratiques dans les pays membres. Donc, quand ces peuples se sentent forcés à trouver d'autres alternatives, d'autres réponses, ça veut dire que l'organisation régionale qui était censée de renforcer ces institutions n'arrive pas à le faire.
Vous voulez dire que la CEDEAO est un échec?
En quelque sorte. Forcément, il faut reconnaître ça. Parce qu'on parle toujours de la gravité des coups d'État. Mais quand on a des régimes qui ne respectent pas l'ordre constitutionnel, qui n'acceptent pas le choix libre du peuple et que rien n'est fait pour rétablir l'ordre, on invite ces peuples et ces États à trouver d'autres mécanismes pour avancer. Et c'est ça qui se passe dans la plupart de ces pays de la CEDEAO. Donc moi, je pense que on a encore le temps pour que les leaders de la CEDEAO puissent revisiter ces situations, faire de telle façon que l'ordre constitutionnel et la démocratie soient respectés dans leur état respectif, et pour que cela puisse assurer au peuple de la bonne volonté de ses politiques.
Mais écoutez, pourriez par exemple vous exprimer sur la situation dans l'est du Congo où les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le M23. Juste pour rappel, il y a eu des manifestations anti-occidentales qui ont éclaté en février en RDC. Et une question que j'aimerais vous poser, c'est y voyez-vous et comment la responsabilité de l'Occident dans la situation qui s'est créée dans l'Est du pays?
Laissez-moi commencer par une question conceptuelle. Amir Kattaoral disait qu'un des gros problèmes des pays africains, c'est qu'on fait la proclamation de l'État alors que la nation n'est pas consolidée.
C'est-à-dire, expliquez ça.
Et quand il parle de nation...
Expliquez ça.
Oui. Vous savez, l'État est normalement l'aspect institutionnel d'une organisation. Mais pour que l'État puisse fonctionner, il faut que la nation, et nous, on définit la nation comme un peuple, et un territoire, et un certain nombre de coutumes qui nous réunissent. Donc, quand vous faites la proclamation de l'indépendance, sans que le peuple qui s'est réuni dans un territoire ait les valeurs qui le maintiennent ensemble, cet État est forcément très faible.
Mais est-ce que vous y voyez la main de l'Occident ? Ça, c'est intéressant parce que vous êtes un homme politique, vous êtes sur place, vous combattez, c'est clair pour vous. Qu'est-ce qui est clair pour vous ?
Non, la situation en République démocratique du Congo, je ne peux pas dire que c'est tellement clair pour moi. Bon, forcément, les ressources que l'État dispose à trahir des différents intérêts, notamment de l'Occident. Ça, c'est très clair. Mmh. Et on ne peut pas nier que ces ingérences de l'extérieur tournent les choses beaucoup plus compliquées. Mmh. Mais disons que moi, je ne maîtrise pas tellement bien la situation spécifiquement aux Républiques démocratiques du Congo et je ne peux pas dire de forme claire qui joue quel rôle dans cette situation.
Non, vous ne pouvez pas le dire.
Non.
Quelle est votre réaction aux derniers événements du Tchad ? C'est très important.
Bon, encore une fois, je dois reconnaître que ma connaissance était limitée. Ce n'est pas nécessairement un pays de l'Afrique d'Ouest. Mm-hmm. Mais bon, on a accompagné l'assassinat du président et la façon comme le transfert de pouvoir a été fait. Tout ce que je peux souhaiter, c'est que cela représente le choix du peuple tchadien. Mm-hmm. J'espère que les élections libres puissent être organisées pour que cette expression soit libre, transparente et que celui qui sera choisi représente vraiment la préférence du peuple.
Et si ça pouvait exister, quel serait le pays d'Afrique qui puisse se poser en médiateur au milieu de la majorité du peuple africain, si on peut appeler peuple africain comme ça, aujourd'hui ?
Bon, disons que, normalement, on devait regarder les organisations régionales. Vous avez la CEDEAO pour l'Afrique d'Ouest, vous avez le CEMAC pour l'Afrique de l'Est, vous avez la SADC pour l'Afrique orientale. Donc, les leaders sont choisis dans ces organisations exactement pour mener ce dialogue et pour s'assurer que toutes les différences sont réglées dans la table de négociation. Le problème, c'est que l'Afrique doit comprendre que personne doit financer notre stabilité et notre développement. On ne peut pas, à chaque échéance, regarder l'Europe, regarder les États-Unis, attendre que ce soit eux qui financent notre stabilité. C'est pourquoi moi je dis toujours que les réformes doivent être menées pas dans le sens de continuer à demander aux autres de nous donner leur financement, mais de faire de telle façon que nos propres ressources soient utilisées d'abord pour la stabilité de nos peuples et pour le développement de nos territoires respectifs.
C'est ainsi que se termine la première partie d'Identité africaine. Ne partez pas trop loin, on va reprendre tout à l'heure la conversation avec M. Domingo Simoé Pereira. À tout de suite.
Suivez Spoutnik Afrique sur son site internet, sur les plateformes de podcast et sur les ondes de votre radio préférée. Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Afrique en marche, zone de contact, marché en main et identité africaine. Politique, économie, défense, sciences et culture. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream.
identité africaine sur Radio Sputnik Afrique.
Kenny Soninke.
Gaye Binam.
Baba Zengante.
Je rappelle à nos auditeurs de Radio Sputnik Afrique, il s'agit de l'émission Identité africaine et nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Domingo Simoé Pereira. Je voudrais juste rappeler cette phrase de Amilcar Cabral, une phrase très importante qui est en fait une sorte de phrase porte-drapeau. Voici ce qu'il dit. Nous ne luttons pas simplement pour mettre un drapeau dans notre pays et pour avoir un hymne, mais pour que plus jamais nos peuples ne soient exploités, pas seulement par les impérialistes, pas seulement par les Européens, pas seulement par les gens de peau blanche. Parce que nous ne confondons pas l'exploitation ou les facteurs d'exploitation avec la couleur de peau des hommes. Nous ne voulons plus d'exploitation chez nous, même pas par des Noirs.
Bon, permettez de profiter de ce que vous venez de dire pour vous rassurer que pour nous, Amilcar Cabral était un visionnaire hors pair qui a marqué l'histoire des mouvements révolutionnaires en Afrique. Il était charismatique, un panafricaniste convaincu qui a théorisé la révolution et a œuvré pour l'unité de la Guinée et du Cap-Vert. Mmh. Okay. C'était quelqu'un qui dépassait les périodes qu'il a vues. Disons que alors que il y avait encore des combats pour la libération des deux territoires, Amilcar Cabral faisait déjà des théories sur l'organisation d'État qui devait prendre place après l'indépendance. Mmh. Malheureusement, il était assassiné en 73, ce qui nous a jeté dans une situation. Aussi le président du PAIGC, parti d'Amilcar Cabral, le plus grand parti politique de la Guinée-Bissau. Le PAIGC, c'est le parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui a conduit une guerre de libération entre les années 63 et 74. Une remarquable lutte armée de libération nationale qui a fait historique inédite l'indépendance de deux territoires sous domination coloniale portugaise. D'ailleurs, je pense que il faut dire qu'à quelque sorte, c'est pourquoi on est regardé dans la sous-région comme étrange. Parce que au même moment que la plupart des pays ont négocié leur indépendance, le PAIGC avec Amilcar Cabral l'a conquis de forme unilatérale et autonome.
Pour rappel,
à la suite de la conférence de Berlin de 1884-1885, où les puissances coloniales ont discuté de la répartition des sphères d'influence en Afrique, le royaume du Portugal a reçu, entre autres, le Mozambique, l'Angola, la Guinée portugaise, future Guinée-Bissau, et les îles du Cap-Vert. En 1926, un coup d'État a lieu au Portugal, à la suite duquel une dictature militaire est instaurée dans le pays. Elle est remplacée par un régime d'extrême droite, dont la figure principale est António de Salazar. Il restera au pouvoir jusqu'en 1968. En 1930, le Portugal adopte l'acte colonial, qui divise la population des dominions portugais d'outre-mer en autochtones et non indigènes. Les termes non civilisés et civilisés sont également utilisés. Amilcar Cabral est le cofondateur du Parti africain de l'indépendance. Devenu en 1960 le Parti africain de lutte pour l'indépendance de la Guinée et des îles du Cap-Vert, AIGC. En décembre 1960 et en octobre 1961, Amilcar Cabral envoie des appels au gouvernement portugais, exposant les aspirations des peuples de la Guinée portugaise et des îles du Cap-Vert à l'indépendance. En cas de refus des autorités portugaises, Cabral, au nom du PAIGC, promet d'éliminer la domination coloniale par la force. Ces appels sont restés sans réponse. Début 1963, le PAIGC annonce officiellement le lancement de la lutte armée contre les colonisateurs. Amilcar Cabral ne vit pas la victoire totale sur l'ennemi. Il est assassiné le 20 janvier 1973 près de son domicile à Conakry. En septembre de la même année, les députés de l'Assemblée nationale populaire proclament l'indépendance d'un nouvel État, la République de Guinée-Bissau. Les guerres coloniales infructueuses du Portugal en Afrique ont été l'une des raisons du coup d'État connu sous le nom de « Révolution des œillets » en avril 1975. En septembre de la même année, le Portugal a reconnu la pleine indépendance de la Guinée-Bissau.
Et la proclamation de l'indépendance a été suivie par un choix de la voie socialiste d'organisation d'État. Alors, quand vous regardez l'influence que les autres puissances comme la France, l'Angleterre et autres avaient dans les pays africains, là vous comprenez pourquoi la Guinée-Bissau a eu du mal à s'affirmer dans la région. Donc, quelque chose, ça explique aussi la difficulté que l'État fait face toujours.
Et pourquoi le Cap-Vert ? Expliquez-nous comment ça se fait que le Cap-Vert soit rattaché. Il n'est pas rattaché, il est indépendant aujourd'hui de la Guinée-Bissau. Mais le parti est présent. Comment ça se passe ? C'est quoi les liens ?
Bon, d'ailleurs, il faut dire que le Cap-Vert a été peuplé par des esclaves qui ont été pris en Guinée pour la plupart et le mélange avec le colonisateur qui était le Portugal. Donc, on a la même langue et vous allez voir que, bon, ce n'est pas nécessairement la même langue, mais il y a la même origine. On se comprend, on peut dire. Et alors, Amilcar Cabral est exactement un produit de ce mélange.
D'accord.
Ses pères sont capverdiens, son père et sa mère, mais il était né en Guinée-Bissau.
D'accord.
Étant un visionnaire, comme j'avais dit, il a compris qu'il n'avait pas de conditions physiques pour mener une guerre de libération au Cap-Vert. Donc, il a mobilisé des nationalistes capverdiens avec des nationalistes bissau-guinéens qui ont mené la guerre de libération en Guinée-Bissau, mais pour l'indépendance des deux territoires.
D'accord.
Donc, on reste très attachés. Suivant, il se pose cette question, pourquoi nous, on conserve dans notre sigle le PAIGC ?
C'est ça, oui.
Disons que pour nous, c'est une question d'histoire, mais aussi de respecter les combattants de la liberté qui ont donné leur vie pour la libération de deux territoires.
D'accord.
Donc, c'est rien d'autre. On ne veut pas évoquer une compétence extra dans le Cap-Vert. C'est juste une question de mémoire et de reconnaissance.
L'Afrique, c'est un continent, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est 54, 55 nations, n'est-ce pas ? Quand on joue au foot, on ne dit pas qu'on est africain, on dit qu'on est sénégalais, on est côte d'Ivoire, on est guinéen, etc. Est-ce qu'il y a, malgré tout, il y a une identité africaine ? Est-ce qu'on peut parler d'une identité africaine ? Et si oui, qu'est-ce que cela veut dire pour vous ?
L'identité africaine, il faut la construire. Le plus lourd héritage qu'on a eu de la colonisation, c'est la façon comme l'Afrique a été divisée. Parce que, vous voyez, je suis un Africain, de l'Afrique d'Ouest, mais vous serez étonné de la différence que vous allez voir dans la culture dans mon pays et de la culture, par exemple, en Guinée-Conakry, au Tchad et dans les autres pays voisins. Donc, mais vous savez, depuis 60 ans, nous sommes déjà indépendants. Le moment est arrivé pour qu'on s'arrête de culpabiliser la colonisation, mais qu'on soit capable de faire la connaissance l'un de l'autre.
Voilà.
À traverser les frontières, se reconnaître et bâtir des nations qui sont plus intègres, plus intégrées. Vous voyez ?
Qu'est-ce qui vous empêche ? C'est ça qu'on aimerait comprendre. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de décider pour elle-même et par elle-même ?
Non, ce qui nous empêche, c'est le manque de vision de nos responsables. C'est pourquoi je dis que Amilcar Cabral, c'est un visionnaire. Aujourd'hui, on a du mal à voir ces mêmes niveaux d'hommes leaders. Mmh. Vous voyez? Mmh. Et c'est exactement ce que nous, on propose à nos peuples. Mmh. Exactement. Des hommes comme on avait Kwame Nkrumah, Abdel Nasser, Amilcar Cabral, qui pensaient en dehors de ces limites territoriales.
Mais alors, du coup, là, vous dites, je suis africain, vous venez de le dire, vous êtes africain. Vous n'avez pas dit, je suis guinéen ou guinéen-bisséen. Vous avez dit, je suis africain.
Vous êtes africain. Oui, je suis un africain, parce que je suis absolument imprégné de l'idéologie d'Amilcar Cabral. Mmh. Il a toujours présenté lui-même comme un africain. Quelqu'un qui est disponible à donner toute sa énergie, toute sa vie pour la libération de l'Afrique.
Voilà, donc on a l'impression que...
Il le fait dans un territoire restreint qui est la Guinée, mais en visant le panafricanisme. Exactement. Mmh.
Donc on a l'impression que quand un Africain dit qu'il est africain et non pas d'un pays, d'une nation, ça veut dire qu'il se défend des colons, en gros. Donc,
Oui, c'est vrai. En quelque sorte, c'est vrai.
Mm-hmm. Oui, c'est-à-dire qu'un Européen, quand il dit « je suis Européen », il ne se défend pas des colons. Hein. Enfin bon...
Vous savez, ça c'est un débat très intéressant.
Merci beaucoup.
Parce que lorsque une définition n'est pas achevée, on fait question toujours de la mentionner et de la préciser. Mm-hmm. Comme je vous ai dit, l'africanisme doit être construit. Hein? On ne peut pas le prendre comme quelque chose qu'on hérite. Il faut la construire.
Bien sûr, c'est très clair ça. Et bien justement, pour construire quelque chose, vous avez construit des maisons quand vous étiez en Union soviétique, vous étiez nombreux pour le faire, ça vous a formé, ça vous a forgé, ça vous a donné envie de vivre, de bouger, de plein de choses, j'ai compris que c'était quelque chose d'extrêmement positif, et bien pour construire l'Afrique dont vous parlez, est-ce que c'est l'Afrique du futur, c'est l'Afrique de demain, et qu'on aimerait tous voir heureuse et rayonnante, n'est-ce pas? C'est évident, c'est le continent le plus jeune, n'est-ce pas? Le plus riche en ce que vous avez dans le sol, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Voilà, et qu'on cesse de vous piller. De quoi avez-vous besoin? Comment voyez-vous, par exemple, dans la coopération avec la Russie, puisque vous parlez avec la Russie maintenant, qu'est-ce que vous y voyez? Est-ce que la médecine est importante? Est-ce que, par exemple, la médecine, c'est un grand mot, mais on peut aujourd'hui essayer et réussir de soigner à distance avec la télémédecine. Vous avez besoin de coopération dans le domaine des céréales, n'est-ce pas? Ça, c'est très important aussi. Tout ce qui est technologie pour l'énergie atomique civile, etc. Est-ce que vous y voyez, vous, un avenir, un futur de coopération avec ce grand pays qui est la Russie et que vous connaissez?
Moi, je crois que la Russie peut être un partenaire stratégique pour l'ensemble de l'Afrique. D'ailleurs, parce que c'est un player fondamental pour que la paix et la stabilité mondiale puissent être assurées. Mais il faut que l'Afrique arrête de regarder les autres continents comme celles qui sont responsables pour mobiliser les ressources nécessaires. On ne doit pas regarder la coopération avec la Russie dans une perspective que la Russie va nous donner les ressources qu'on a besoin. Les ressources existent en Afrique.
Bien sûr.
Il faut juste que les pays africains puissent se mettre ensemble, créer l'escale nécessaire pour que d'une voix, ils puissent représenter une stratégie établie entre eux-mêmes. Mm-hmm. Pour que quand ils s'assoient à la table avec la Chine, avec la Russie, avec l'Occident, il ait le poids nécessaire pour tirer au-delà ses stratégies. Il faut que cette notion d'aide puisse être mise à côté. Il n'y a pas de nation au monde qui vont venir nous donner des ressources, de l'argent, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils veulent nous développer. Non, il y a des coopérations. Donc, il faut que on assume notre grandeur, qu'on se connaisse très bien. Vous avez mentionné que dans les années 70-80, la Russie, l'Union soviétique a fait pas mal d'études dans nos pays. Ça doit nous aider à nous connaître nous-mêmes. Et donc, avec l'actualisation de cette connaissance, on doit être capable de s'asseoir dans la table et discuter, pas individuellement, mais comme un continent, comme une force. Et là, je pense que dans tous les domaines, dans tous les domaines, je vais juste mentionner deux ou trois. Imaginez qu'aujourd'hui, tous les mécanismes de communication qui est utilisé en Afrique par, pour la plupart, des installations des pays occidentaux, de la Russie ou de la Chine. Où sont les mécanismes technologiques africains? Même s'ils sont rudimentaires, il faut commencer par là. Il faut qu'on ait le courage d'affronter les défis et de monter doucement. Je rappelle toujours, dans les années 80, on disait que la Chine était un dragon qui dormait. Mais dès qu'il est réveillé, on a compris qu'il ne dormait pas. Il était en train de se préparer pour se lancer dans le monde économique, le monde technologique. Il est là maintenant. L'Afrique a besoin de faire le même parcours.
C'est très intéressant. Très intéressant votre point de vue. C'est, en fait, l'avenir de l'Afrique, c'est, vous voyez ça comme une Afrique réunie dans un seul but. C'est celui de représenter, de se représenter et ne plus être, comment dire, simplement infantilisé et avoir un papa, maman, l'Occident et, ou les autres pays. Mais je pense pas que la Russie voit ou infantilise l'Afrique. Vous le savez par vous-même. La Russie a tout de même réuni à plusieurs reprises les pays africains au cours des sommets. Le président russe Vladimir Poutine s'est déplacé. Il y a eu des propositions de fait. On attend des retours.
Moi, si je peux juste ajouter, parce que vous avez raison, nous sommes en train de parler à la Russie. Mais moi, je pense que si je peux oser,
allez-y,
de proposer quelque chose, il ne suffit pas de critiquer des institutions comme l'FMI et la Banque mondiale. On sait que la Russie fait partie des BRICS,
oui.
Des pays émergents.
Pour rappel,
les BRICS se composent actuellement de 10 pays, dont 3 se trouvent sur le continent africain. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie ont été rejoints par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en tant que nouveaux membres à part entière des BRICS le 1er janvier 2024. Ngozi Okonjo-Iweala, directrice de l'Organisation mondiale du commerce, a déclaré que l'expansion des BRICS avait fait passer la part de l'organisation dans la production mondiale de 32% à 37%. Quant aux pays du G7, ils ne contrôlent que 30% de la production mondiale. Les pays membres des BRICS ont créé la nouvelle banque de développement, qui vise à financer des projets d'infrastructure et de développement durable dans les BRICS et les pays en développement. Un projet de création d'une bourse des céréales des BRICS est également à l'étude. Aujourd'hui, plus de 40 pays ont déjà exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. La Russie, qui assure la présidence du groupe en 2024, organisera le prochain sommet des BRICS dans la ville de Kazan au mois d'octobre.
Il faut que ces institutions soient capables de proposer des mécanismes qui offre un choix alternatif à tous ces pays. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire financer l'Afrique, mais qu'ensemble, en tenant compte de toutes les ressources qui existent en Afrique, on soit capable de proposer un mécanisme qui soit une alternative à l'FMI, à la Banque mondiale, pour que tous les pays, et le continent africain notamment, puissent faire son choix de forme libre.
Oui, enfin, vous savez que la Russie est des centaines de fois sanctionnée par des pays occidentaux et que la BRICS est ouverte et elle attend toujours des candidatures, donc c'est ouvert. Hein.
Oui, mais Monsieur Mardoukaï, pourquoi ces sanctions pèsent tellement? Le poids des sanctions est proportionnel à l'importance qu'on donne au flux commercial avec l'Occident. Alors, si on regarde la carte mondiale, on va voir que la région du monde qui a besoin d'investissement aujourd'hui, c'est l'Afrique. Donc, proposons à l'Afrique des mécanismes qui soient capables de mettre en valeur les ressources de quoi ils disposent. Et que l'Afrique s'organise aussi pour profiter de ces alternatives. Au lieu de chaque fois dire que bon, c'est l'Occident qui nous compromet, oui, mais parce qu'ils sont en train de servir leurs peuples respectifs. Ils sont les mêmes.
La France est liée par des accords de coopération monétaire avec trois zones monétaires africaines. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et l'Union des Comores. Le franc dit CFA désigne en réalité trois monnaies distinctes et suscite parfois des interrogations. Quel est votre point de vue là-dessus? Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont évoqué leur intention de créer une monnaie commune.
Non, moi je pense que ces pays, je fais référence à la Guinée, à Niger, au Burkina et au Mali, ont eu le courage de poser une question que nous tous on pose, mais en silence. Vous voyez? Moi, je pense qu'on ne peut pas parler d'une souveraineté quand on ne contrôle pas notre monnaie, quand on ne contrôle pas notre politique monétaire.
Absolument.
Je pense qu'il suffit de poser un certain nombre de questions pour arriver à comprendre à quel niveau cela pose vraiment problème. Un, comment ça se fait que l'économie des pays de presque toute l'Afrique qui utilise le franc est directement attachée à l'économie française? Comparez la taille de la France avec toute l'Afrique.
Pour rappel,
le franc CFA, monnaie coloniale des territoires français d'Afrique, a été introduit par décret du gouvernement français en 1945. L'abréviation CFA a été formée à partir des lettres initiales des mots « colonie française d'Afrique ». Aujourd'hui, il existe un franc CFA de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et un franc CFA de 6 pays d'Afrique centrale. Le Cameroun, le Gabon, la République du Congo, la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée équatoriale. Le taux de change du franc CFA était initialement lié au franc français et depuis 2002 à l'euro. En échange de la garantie par la France de la convertibilité du franc CFA, ces pays ont accepté de placer 65% de leurs réserves de change sur un compte spécial du Trésor français. De nombreux experts indiquent que le franc CFA, en tant qu'élément du système financier néocolonial imposé aux pays africains, freine le développement des économies nationales. L'éventuel abandon du franc CFA a été évoqué par les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina et le Niger, pour des raisons de souveraineté et d'indépendance économique. Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye n'a pas exclu lui aussi cette piste. Peu après, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré que le sort de la monnaie devait être décidé par les pays africains eux-mêmes. Selon lui, la France n'est plus dans la gouvernance et il n'y a plus de réserve en France pour garantir le franc CFA.
Je pense qu'à un moment donné, peut-être que cela a dû être justifié, mais aujourd'hui, même dans le dialogue que la France a avec le reste du continent africain, plusieurs jeunes africains l'ont dit. Il faut revisiter ça, il faut qu'on soit capable d'ajuster à la réalité actuelle. Mm-hmm. Deuxième, si le mécanisme d'intégration africaine est inspiré sur le mécanisme européen, comment ça se fait que, même si on a la monnaie euro, chaque pays européen garde sa banque nationale. C'est-à-dire qu'il a sa souveraineté monétaire.
Bien sûr.
Pourquoi les pays africains ne peuvent faire la même chose? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que, encore une fois, si on laisse que chaque pays, comme par exemple la Guinée-Bissau, va négocier sa situation économique et monétaire, on s'en sortira jamais. Il faut que d'un coup, l'Afrique s'assoie ensemble, les 55 pays, qui a une discussion vraie sur la réalité économique et monétaire, et que la France soit vue comme un partenaire, il soit invité à faire partie, de la même façon qu'on doit être capable d'inviter la Russie, la Chine, tous les autres partenaires, et pour que d'égal à égal, on soit capable d'établir des partenariats qui soient justes. Je m'excuse de mon français.
Non, il est parfait. Je rappelle que vous parlez, vous êtes un multilingue. Ça fait partie.
Quand
de...
on est multilingue, à la fin, on ne parle rien.
Nous sommes très heureux de vous avoir entendu. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Quel est votre espoir réel?
Bon, moi, je considère qu'on est à la croisée des chemins. On a vécu des différents défis, mais les choix politiques qu'on fait aujourd'hui auront une répercussion importante dans l'avenir de notre pays et de l'ensemble de notre sous-région et de l'Afrique. Il est donc important que tous les acteurs nationaux et internationaux soient sérieux dans les démarches et entreprendre et qu'ils comprennent que l'avenir se construit dans la vérité et la cohérence des paroles et des actes. Donc, je regarde la CEDEAO, je regarde l'Union africaine et je demande que, d'une fois pour tout, ils soient capables d'accompagner ces pays, de les aider à bâtir des institutions qui sont fortes, qui sont crédibles, où le choix des peuples respectifs soit respecté. Et en disant cela, j'espère vraiment que cette année encore, des élections présidentielles libres et transparentes puissent avoir lieu en Guinée-Bissau. C'est mon espoir et je compte que la Russie et toute la communauté internationale puissent contribuer à cela.
Bien, voilà, ça c'est encore un souhait pour que vous émettez pour le futur de l'Afrique. Eh bien, merci beaucoup, merci énormément. Je rappelle à nos auditeurs que voilà, nous sommes sur Radio Sputnik Afrique dans une émission qui s'appelle Identité africaine et qu'on vient d'avoir un long dialogue avec Monsieur Domingo Simoé Pereira. À très bientôt sur nos ondes.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
Da svidane, tovarish Maxim Mardukovaj.
Là-dessus se termine Identité africaine sur Radio Sputnik Afrique. À très bientôt, chers auditeurs.